Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civiquement violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Aujourd'hui, nous allons parler du compost. Le compost, ce truc au fond du jardin où l'on déverse de temps en temps des choses qui sont censées ensuite être transformées en terre. Ou bien ce cube en plastique distribué par les communes en vue de limiter le volume des ordures ménagères à collecter. Et donc, ce qui permet indirectement de réduire la facture de la gestion des déchets. Le compost a souvent cette allure, sauf que tout ça ne dit pas vraiment ce qu'il est et encore moins comment le mener à bien. Sauf que le mener à de travers, cela en fait un pourrissoir plus proche de la méthanisation que de la fabrication d'un terreau qui sent bon le sous-bois, prêt à faire pousser les bons légumes du jardin. Alors pour commencer, un peu de notion biologique. Il existe de nombreuses sortes de bactéries dans la nature, on peut les classer en deux grands types en fonction de leur relation avec le dioxygène de l'air. D'un côté, les aérobies qui vont utiliser cet oxygène pour respirer, de l'autre, les anaérobies qui vont utiliser d'autres processus comme la respiration anaérobie ou la fermentation. En réalité, il existe des sous-groupes comme des bactéries anaérobies qui ne supportent pas d'être en présence d'oxygène, d'autres qui le supportent. Tout ça pour dire que le compost est un processus aérobie, donc en présence d'oxygène, soit d'air, à contrario de la méthanisation qui est un processus anaérobie sans air. Et un mauvais compost qui ne sent pas bon, ce n'est pas un compost. Les mauvaises odeurs étant liées au processus anaérobie sans oxygène qui s'y déroule faute de l'avoir bien réalisé. On comprend donc que pour composter, il faut de l'oxygène, donc de l'air, donc que le compost soit aéré et qu'il y ait de l'air qui circule. Un gros tas tassé, un gros tas de fumier gluant, ce n'est pas un compost, c'est une méthanisation à l'air libre. Une chose n'est pas coutume dans cette émission, nous laisserons la parole à bien plus experts que nous, en l'occurrence Claude Bourguignon. D'une part parce qu'encore une fois, Lydie et Claude Bourguignon connaissent très bien le sujet pour y avoir consacré la plupart de leurs recherches, d'autre part parce qu'ils parlent bien et que c'est un plaisir de les écouter. Et enfin, parce que répéter ce qui est déjà dit constituerait un plagiat sans intérêt. Je vous propose donc de commencer par comprendre le principe de compostable.
Cette technique du compostage est un amendement, c'est-à-dire que nous allons nous occuper du sol et non pas de la plante. C'est donc une démarche qui est évidemment très différente de la démarche agricole où on se contente de mettre des engrais pour augmenter les rendements. Là, on va se préoccuper du sol lui-même, c'est-à-dire qu'on va lui apporter ce dont il a besoin. Or, ce compost, les hommes très tôt ont senti empiriquement comment le faire, et nous savons le faire en prenant justement les matières organiques dont nous disposons sur la ferme pour pouvoir refaire dans le tas de compost ce que la nature fait naturellement sous la forêt. Nous ne pouvons évidemment pas garder la forêt, nous avons besoin de nos champs pour nous nourrir, donc nous ne pouvons plus laisser la forêt apporter sa matière organique au sol. Nous allons prendre la matière organique de la ferme, c'est-à-dire les excréments de nos animaux, les pailles, toutes les sources agronomiques de matière organique que nous avons, et nous allons les, dans une zone particulière qu'on appelle l'aire de compostage, nous allons les réunir ensemble avec comme idée de faire ce qui se passe en forêt, c'est-à-dire de fabriquer des humus et de développer cette faune particulière qui est la faune épigée qui sert à l'aération de la surface des sols, qui va permettre au sol de boire les orages, on va lui permettre de se développer. Alors ce compostage, cette gestion par l'homme de la matière organique doit copier la forêt, c'est-à-dire de répondre aux mêmes critères que le système forestier. Alors la forêt, qu'est-ce qu'elle apporte essentiellement? Elle apporte de l'aluminium, de la cellulose, c'est-à-dire des matières très riches en carbone et relativement pauvres en azote. Et c'est sur ces matières riches en carbone que vont se développer les micro-organismes qu'on appelle les champignons, qui sont les grands fabricants d'humus.
Ça, c'était pour les principes. En résumé, pour cultiver facilement, on supprime la forêt qui crée des obstacles. Mais ce faisant, on rompt la création de sols fertiles. Il faut donc y suppléer par la création de compost, un humus. Maintenant, prenons une loupe, voire un microscope, pour étudier ce qui se passe dans ce tas de compost. Cela se réalise en plusieurs phases successives.
Alors, ces phases se font en trois étapes. Première étape, nous allons voir que le tas va se mettre à chauffer. Les anciens d'ailleurs parlaient de fumier, qui veut dire qui fume, qui chauffe. En effet, le tas, du fait qu'il contient de l'oxygène, va se caractériser par une multiplication rapide des germes dits thermophiles, des germes qui sont capables de produire de la chaleur. Et le tas, l'idéal est de monter aux alentours de 50 degrés. Il faut pas monter trop en chauffe, sinon le tas va sécher, il va brûler, on dit qu'il y a une fièvre, hein, c'est un peu comme pour un être humain. Mais l'intérêt de monter quand même en température est de pasteuriser les matières. En effet, il y a toujours des animaux qui ont une maladie dans un troupeau, il y a toujours des pathogènes sur les pailles, et donc cette montée en température va nettoyer la matière organique. En effet, l'agriculteur fait des cycles courts, donc il revient fréquemment au même endroit, et il faut éviter de contaminer sa ferme. Donc cette montée en température va être importante. Elle a un autre intérêt, c'est qu'elle est garantie, elle nous garantit que notre tas est aéré. En effet, il n'y a pas de montée en température dans l'anaérobiose. Si notre tas fait du beurre noir, s'étouffe et ne chauffe pas, nous avons raté le tas, nous n'avons pas mis assez de paille, pas mis assez de branches. Donc ce tas va monter en température, cette montée en température est effectuée par des germes qu'on appelle les actinomycètes, qui sont des germes thermophiles et qui ont l'énorme intérêt de produire des antibiotiques. Pourquoi on a besoin des antibiotiques, des actinomycètes? C'est que ces antibiotiques vont freiner les bactéries. Et nous ne voulons pas que les bactéries se multiplient dans le tas. C'est les bactéries minéralisent. Elles nous font des jus qui vont polluer et qui nous perdent la fertilité du tas. Nous voulons au contraire que notre tas reste réorganisé. C'est-à-dire que nous voulons que les substances soient réorganisées sous forme biologique au lieu de partir par les cibages par les pluies. Donc les actinomycètes vont bloquer les bactéries grâce aux antibiotiques. Et ça va permettre l'arrivée des champignons qui, eux, sont producteurs d'antibiotiques, sont donc pas freinés par les antibiotiques et ils vont pouvoir s'installer dans le tas. En effet, si on ne met pas d'antibiotiques, comme les bactéries se multiplient 20 fois plus vite que les champignons, c'est elles qui vont prendre l'avantage sur les champignons. Les champignons sont des organismes qui se multiplient lentement et qui donc se font vite envahir par les bactéries. En ayant ces antibiotiques produits par les actinomycètes, on est sûr que le milieu sera envahi par les champignons. Après cette baisse de température, il va se passer un phénomène bien particulier, c'est l'arrivée de la faune épigée. C'est-à-dire que la faune que nous voyons à la surface du sol forestier va rentrer dans le tas. Cette faune épigée est formée d'insectes, elle est formée de colamboles, d'acariens, de millepattes, elle est formée de crustacés comme les cloportes, elle est formée de petits vers colorés. Il y en a qu'on connaît bien, c'est Senia fetida, le ver rouge du fumier. Vous avez Allolobophora, vous avez toute une série de vers épigés qui vont, le rôle de tous ces animaux va être de manger les substances de notre compost. On dit que ce sont les broyeurs primaires. Ils vont en quelque sorte, par leurs excréments, préparer la matière pour les champignons. En effet, les champignons sont des êtres microscopiques et pour eux, un morceau de paille ou un morceau de bois est quelque chose de gigantesque qu'ils n'arrivent pas à avaler. Et le travail de cette faune va être de manger ces éléments, de les réduire en éléments très fins, dans ce qu'on appelle les boulettes fécales. On va voir d'ailleurs le tas diminuer de volume puisqu'il va être concentré dans les excréments des animaux. Et ces éléments réduits finement vont pouvoir être attaqués par les champignons. Et donc la troisième phase du compostage sera l'apparition des champignons qui vont transformer toute cette substance en humus.
Ça y est, maintenant qu'on connaît les principes, les processus biochimiques et biologiques internes, il s'agit de savoir comment le réaliser. Je vous propose donc d'en écouter une recette.
Alors, ce tas que nous allons créer, nous allons aussi lui donner une forme particulière et une dimension particulière. En effet, dans la forêt, la matière organique se met à la surface du sol, elle va être en contact avec l'oxygène, et les champignons sont des organismes aérobies, comme la faune épigée, qui a besoin d'oxygène pour vivre. Donc il faut que notre compost copie ce qui se passe en forêt, il faut que la dimension de notre tas permette à l'oxygène de rentrer à l'intérieur du tas. Cette condition, nous allons pouvoir déjà la faire grâce à l'apport important de paille et de bois raméo, qui vont apporter de l'aération au tas, au lieu d'avoir un tas trop riche en excréments, qui a tendance à faire du beurre noir, à prendre en masse et à s'étouffer, on va au contraire faire un tas très aéré, très léger grâce à l'apport massif de paille et de déchets de broyage, de branchage. Et ce tas, nous allons lui donner une largeur pas trop excessive, l'idéal c'est d'avoir 3 mètres de large, une hauteur d'environ 1,50 m de haut, et nous allons le mettre en andin. Cet andin sera de la longueur que l'on veut, c'est-à-dire on pourra faire ce compost le long du champ que l'on veut ensemencer, et il peut avoir la longueur correspondant à la surface du sol. Une fois qu'on a fait un tas qui est riche en paille et en bois de taille, contenant le rapport qu'il faut d'excréments animaux, et n'ayant pas une largeur ni une hauteur trop grande, on va être sûr que l'oxygène rentrera dans le tas, et nous allons pouvoir suivre les différentes phases de transformation du compost.
Et maintenant, une fois que l'on sait tout ça, comment le rater à coup sûr ? Premier événement pour le rater, faire un tas non aéré, soit parce qu'il est trop volumineux et l'air n'arrive pas au milieu, soit en y entassant des ingrédients fins et humides, ce qui va colmater les arrivées d'air, soit en compactant, en marchant dessus, en mettant des choses lourdes dessus. Deuxième élément pour être certain de le rater, le sécher, et donc empêcher les éléments décomposeurs de pouvoir faire leur travail. Pour cela, un composteur trop haut et trop peu large assure un raté à coup sûr. Troisième élément pour le rater, l'inonder. Non seulement cela asphyxie la vie qui s'y mène, mais l'eau étant capable d'absorber beaucoup de chaleur, cela va considérablement refroidir le compost et donc ralentir, voire tuer, ceux qui y travaillent. Maintenant qu'on sait le rater, il est question de savoir quoi y mettre.
Donc est-ce que nous allons avoir sur la ferme qui peut copier la matière organique de la forêt? Nous avons deux sources de cellulose et de lignine, nous avons la paille que nous avons par la culture de nos céréales, et nous avons pour les gens qui font des cultures comme la vigne ou comme l'arboriculture ou les agriculteurs qui ont conservé leur haie, nous avons ce qu'on appelle le bois raméal, c'est-à-dire le bois qui provient justement des branchages des plantes ligneuses. Or ces branchages ont l'intérêt d'être extrêmement riches en carbone et vont nous servir de source justement pour faire de l'humus. Alors pour pouvoir faire du compost, il faut que nous ayons les conditions proches de la forêt, c'est-à-dire une teneur en carbone élevée, et on va conseiller que le mélange de nos pailles, de nos bois raméaux et de nos excréments est un rapport, on dit un rapport carbone sur azote entre 50 et 60, donc très riche en carbone. Donc il faudra que notre fumier soit extrêmement pailleux. Or à l'heure actuelle, nous avons surtout des lisiers et surtout des fumiers très peu pailleux, donc assez sur N trop bas, trop riches en azote, qui vont se minéraliser, qui font des jus, qui polluent l'environnement et qui ne fabriquent pas d'humus. Alors nous, ce que nous voulons, c'est au contraire fabriquer des humus. Donc pour ça, on va au contraire augmenter la part de la cellulose et de la lignine et diminuer la part des excréments animaux.
Dans l'explication, les ingrédients sont plutôt des choses que l'on trouve dans une ferme de polyculture et élevage. Mais on n'a pas forcément cela sous la main. Alors si on n'est pas fermier, on peut quand même faire du compost. Déjà, on peut le faire avec les restes de la maison, comme c'est souvent indiqué par les communautés de communes qui distribuent des composteurs pour limiter le volume d'ordures ménagères. Des acteurs qui, bien souvent, préconisent toutefois de ne pas y déverser de la viande ou du poisson. Pourquoi ? Parce que ça attirerait les rats. Oui, enfin, les rats, au milieu d'un tas de compost, ils ne viennent pas chercher les arêtes de poisson. Sauf si, effectivement, il n'y a que ça. Mais on ne parle alors pas de compost, mais d'écuel. Bon, cette histoire de reste, c'est quand même un peu étrange. Et chez nous, ça ne permettrait pas de composter grand-chose. Il n'y a jamais de reste dans les assiettes ou dans les casseroles. Ce qui a été cuisiné part dans les estomacs, on ne va quand même pas nourrir les lombrics ou les poules avec. Les épluchures, elles partent aux animaux pour notamment les transformer en bons œufs bien jaunes. Alors oui, si vous n'avez pas d'animaux, en effet, direction le compost. Autre chose que l'on peut composter, les toilettes sèches. Oui, parce qu'utiliser de l'eau pour diluer des matières fécales et les rendre difficiles à traiter, qui plus est avec de l'eau potable, c'est plutôt dépassé comme concept. Rendre à la terre ce qui fait pousser les plantes, c'est quand même un peu plus logique. Donc, les toilettes sèches, avec la sûre, les copeaux, le foin, la paille ou les feuilles sèches, on en fait un très bon terreau. Si le compost a été bien fait, il est monté en température et les pathogènes ont disparu. Donc, on peut le mettre directement sous les plantes tomates. Pour ceux que cela rebuterait, on peut aussi les déverser dans le verger. Ce sera moins au contact des futurs aliments. Mais cela nous amène à un élément important. On vient de voir ce que l'on doit mettre dans le compost, mais que ne faut-il pas mettre? On l'a vu, certains préconisent d'éviter d'y mettre de la viande, mais ça se discute, ou pas si l'on considère que la viande n'a rien à faire à la poubelle. On pourrait avoir au moins la délicatesse pour la mort de l'animal de la consommer sans rien y laisser. Mais il y a un point important, il ne s'agirait pas d'aller polluer notre compost. Avec des médicaments? Oui, c'est déjà pas mal. Mais dans certains cas, la montée en température en décompose une partie. Les pesticides et autres produits chimiques? Oui, ça serait dommage de tuer ceux qui travaillent dans le compost. Allez, encore moins évident. Il s'agirait de ne pas y mettre des microplastiques. Hein? Quoi? De quoi il parle? Bien évidemment, on ne va pas y mettre des microplastiques. Vraiment, vous êtes sûr? Vous ne voyez pas comment on pourrait y répandre des quantités de microplastiques sans s'en rendre compte? Et votre papier toilette ou votre papier recyclé, il contient quoi? De la cellulose. Sûr? Au croissant décroissant, on n'y mettrait pas la main à couper. S'il s'agit de papier pure cellulose neuve, pas de souci. S'il s'agit de papier recyclé, on peut commencer à avoir un doute. S'il s'agit de papier issu de corbeilles de bureau, pas de souci a priori, si ce n'est éventuellement les encres. Et s'il s'agit du recyclage des emballages de briques de lait ou de jus? Vous savez ce truc notamment réalisé par Tetra Pak, un film de plastique collé sur un film d'aluminium, le tout collé sur du papier. Pour le recycler, on déchiquette tout, on le mouille et on en sort d'un côté un bloc d'aluminium et plastique et de l'autre de la cellulose. Ça, c'est la théorie simplifiée. Sauf que le procédé consiste bien à broyer, malaxer, une pulpe qui contient tout, plastique, aluminium et cellulose, sans compter les encres. Comment séparer de la cellulose du plastique avec 100% de réussite? Les fabricants interrogés n'ont pas répondu à nos questions, mais ça paraît impossible en fait. Bref, méfiance. Mieux vaut regarder comment son papier toilette a été fabriqué avant de le composter et d'en disséminer partout. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il faut être vigilant sur tout, creuser ces sujets, car l'industrie est prête à tout pour faire perdurer du lait UHT, le plastique et la consommation à tout prix. Maintenant qu'on a notre compost, on en fait quoi au juste? On le met pour nourrir les plantes, pardi. Certains? Oui, pourquoi pas, mais c'est pas aussi direct.
Donc en fait, un compost, si on regarde ce qu'il va apporter à un sol, on se rend compte qu'il va être à la fois une source d'humus, c'est-à-dire d'une substance capable de fixer les argiles du sol, donc d'éviter l'érosion, d'éviter que les rivières se colorent dès qu'il pleut par les apports d'argile. Les argiles vont s'attacher aux humus et vont rester en place sur le champ. Et en plus, nous allons apporter des germes, c'est-à-dire des champignons, qui vont eux aussi continuer leur travail de fabrication d'humus dans nos champs, puisqu'on va les apporter sur le sol, et aussi toute cette faune épigée dont nous avons besoin, que nous avons éliminée de nos champs, puisque nos champs sont nus, ils sont au soleil, et que cette faune a horreur du soleil, elle vit, c'est une faune de l'ombre, une faune qui vit à l'ombre des forêts, et comme nous les exposons nos sols au soleil, il n'y a plus d'arbres, bien cette faune a disparu. En l'amenant par le fumier, on va la maintenir à l'intérieur du sol, donc on va garantir une porosité, le travail de cette faune va être de faire des galeries à la surface du sol, va nous donner une bonne porosité, va permettre à l'eau de pluie de rentrer dans le sol au lieu de créer des érosions. Donc on se rend compte que le compost, on dit que c'est un amendement du sol, agit, on pourrait dire, sur trois niveaux. Premier niveau, il produit des humus qui fixent les argiles. Deuxième niveau, il apporte une faune qui aère la surface de nos sols. Troisième niveau, il apporte les ferments et en partie les champignons, des germes aérobies qui vont participer à l'équilibre microbien de notre sol. Donc le compost n'est pas du tout un engrais. Hein. Souvent les gens me disent, il y a combien d'azote dans mon compost, il y a combien de phosphore. C'est pas à ça que sert le compost. Le compost ne sert pas à nourrir la plante. Il est là pour créer un milieu de sol dans lequel la plante pourra se développer correctement.
Et voilà. Ce qui est dans le compost n'est pas forcément directement assimilable par les plantes. L'intérêt primaire du compost, c'est donc de cultiver non pas les plantes, mais le sol. C'est d'y intégrer une faune, des bactéries, des champignons pour lui redonner vie. Car nos sols sont pour la plupart en mauvais état. En labourant nos sols, on expose ce qui vit sous terre, au soleil, aux prédateurs. C'est comme espérer faire pousser un pommier en jetant une pomme sur un terre-plein bétonné avec au milieu une source radioactive, le tout au milieu des cochons. La pomme, elle va pas faire long feu. Les vers de terre, les bactéries, les champignons exposés aux UV du soleil, aux corneilles, ils ne vont pas faire long feu non plus. En retirant les arbres pour rouvrir les champs, on retire une bonne partie de la protection de l'humus. On retire ce qui nourrit l'humus, c'est-à-dire les feuilles des arbres. En incorporant notre humus artificiel qu'est le compost, on remet un peu de vie dans notre sol. On l'aide à reprendre sa place ou, au minimum, on l'aide à se maintenir. Et ce faisant, tout ce petit monde peut nourrir nos plantes, le tout gratuitement. Bien moins cher que les intrants qui passent par le détroit d'Ormuz. Bien plus fiable, bien plus local, bien plus sûr. Il y a tout à y gagner. Et on le met où ce compost? On le remet là où on a prélevé la matière. Bon, ça c'est l'idéal pour boucler le cycle. Et pour ceux qui auraient peur de réensemencer des pathogènes, on peut envisager de déposer son compost chez le voisin tandis que le voisin nous confie son propre compost. Pour résumer, le compost c'est un processus pour régénérer du sol vivant qui permet à son tour de mieux faire pousser les plantes. Autre avantage par rapport au digestat d'un méthaniseur, le compost ne produit pas de méthane, un gaz à effet de serre très fort. Le compost libère également l'azote au fur et à mesure de sa décomposition, alors que le digestat d'un méthaniseur, lui, le libère d'un coup sans que les plantes puissent l'ingérer immédiatement, ce qui pollue les eaux au final. Le compost n'est pas malodorant, contrairement à la méthanisation qui produit du sulfure d'hydrogène. Bref, il n'y a que des avantages. On veut du green. La palme du greenwashing ira cette semaine à Catherine McGregor. D'après Le Monde, la dirigeante du groupe Engie a confirmé avoir assisté à un dîner de grands patrons avec Marine Le Pen le 7 avril 2026. Mais elle affirme l'avoir fait pour défendre les intérêts de son entreprise contre des idées du Rassemblement National en matière d'énergie. Ah oui? Juste en matière d'énergie? Nous ne pouvons pas laisser ces idées qui sont mauvaises pour la France, pour la sécurité énergétique du pays, pour les prix de l'électricité et pour la décarbonation se cristalliser et prendre forme, dit-elle. Et les autres idées, elles ne sont pas mauvaises par hasard. Catherine McGregor affirme avoir notamment défendu la transition énergétique auprès de Marine Le Pen, critiquant les mesures mises en avant par son parti. Défendre la transition énergétique auprès de l'extrême droite comme s'il n'y avait rien d'autre à défendre. Et de conclure, peut-on exclure le RN du spectre de nos contacts politiques? Évidemment non, parce que c'est une formation qui pèse lourd au Parlement, dit-elle. Ah ben voilà, on leur parle des fois qu'ils aient du pouvoir pour mieux leur refourguer nos produits. Entre copains collaborateurs, il faut bien s'entendre. Cela démontre le niveau de compréhension de ces entreprises quant au réchauffement climatique et autres enjeux environnementaux. Une histoire de business, alors que c'est avant tout une histoire de justice avec la nature, de justice sociale. Car sans se préoccuper des humains, ou plus largement du vivant, de la morale, à part faire du business avec de nouveaux produits, le réchauffement climatique, on s'en moque un peu. Mais quand on considère que l'on peut discuter avec un parti d'extrême droite, avec des xénophobes, avec des racistes, avec des homophobes, avec des suprémacistes, c'est que visiblement, les questions humaines et sociales, on s'assoit ouvertement dessus. Il y a quelques années encore, l'extrême droite, le seul moyen de leur parler, c'était de manifester contre eux, pas de les rencontrer lors d'un dîner entre deux mondanités. Mais ces gens avaient encore quelques valeurs humaines.
N'écoutons pas les Khmer verts et les prédicateurs à lampe à huile.
T'as lu Le Monde, Le Figaro?
Ouais. T'as lu L'Équipe, t'as lu Métro.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
Après la loi Duplomb, la loi Omnibus 10 propose de légiférer pour une nouvelle régression environnementale et sociale. Il s'agit de permettre de valider les nouveaux pesticides une bonne fois pour toutes, sans réexamen périodique et systématique, comme aujourd'hui tous les 10 ou 15 ans. Et si jamais des récalcitrants iraient à redire plus tard, seul l'état des connaissances au moment de la validation compte. Donc, si entre-temps on découvre par hasard que le pesticide évalué ça tue, ben c'est tant pis. On se doute que c'est un moyen pour l'agro-industrie de se faire payer des royalties ad vitam aeternam, au cas où la dangerosité de leur truc serait trop importante. On serait déontologiquement forcé de le retirer du marché, mais du coup, ils pourraient négocier que ce serait contre un gros chèque en leur faveur. Et comme nos industriels ont plus d'un tour dans leur sac, les 5 et 19 mai, le Parlement européen est invité à voter en faveur de la dérégulation des organismes génétiquement modifiés. Il n'y aura plus besoin d'assurer leur traçabilité, donc plus rien sur les étiquettes. Si votre voisin en plante et que le gène se retrouve chez vous, votre école devient celle de Bayer Monsanto Syngenta. On n'arrête pas le progrès entre PDG de l'industrie et dirigeants qui se retrouvent à l'occasion de dîners mondains de bonne famille. Certainement pas pour le meilleur, mais assurément pour le pire. C'était Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. À la prochaine!
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.